On se retrouve sur les ondes de Radio Lodève et on va parler écriture aujourd'hui avec nous, Paul Villevieille. Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous êtes donc écrivain et vous êtes établi sur le territoire lodévois. Votre dernier livre vient et paru cette année. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, certainement. C'est un livre qui, comme d'habitude, du moins parmi ce que j'écris, par rapport à ce que j'écris, reprend un fil conducteur classique dans le déroulement de l'intrigue, c'est-à-dire qu'on commence par décrire et aborder des personnages d'une manière qui sont d'apparence très banale, enfin courant, dans une vie ordinaire, j'allais dire, ou presque. Et puis, au fur et à mesure que le récit se déroule, on va s'apercevoir que, comme la plupart des gens qui nous entourent, il y a une face cachée, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a un passé qui est tout à fait différent de l'image, qui renvoie du moins à une image différente de celle que l'on a présentée au début. Alors là vient, c'est l'histoire d'une fratrie. Une fratrie très soudée, très, très heureuse. Vous avez des enfants qui sont devenus adolescents, qui sont devenus adultes. Ils ont été élevés dans une famille pleine de bonheur, pleine d'amour, entourée d'une manière idéale presque. Et ils ont pu chacun choisir leur voie professionnelle. Alors l'un est conseiller financier, l'autre est pianiste de haut niveau, concertiste international. Un autre est reporter photographe pour Arte, encore une sœur est pilote dans l'armée de l'air. Vous voyez, c'est très divers. Et puis la vie les a éloignés les uns des autres, au fil de leur passage professionnel, au fil de leur cheminement, jusqu'au moment où, bien des années après leur séparation normale d'adolescents, et l'un des frères, Antonin, reçoit un billet complètement sibyllin, sur lequel il est juste noté « Viens, signé B ». B comme Barbara, qui est sa sœur. Il est très surpris parce qu'ils avaient rompu le contact de manière, ils ne sont pas fâchés, mais tout simplement par l'éloignement dont on a parlé. Et il est très surpris, il appelle, il rejoint d'autres frères, et il essaie de rejoindre son autre sœur. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bien? Tout le monde lui dit non, je n'ai rien reçu, je ne sais pas, donc c'est surprenant. Et là, ils vont s'amettre, chacun depuis leur territoire, j'allais dire, l'endroit où ils sont, se mettre en route pour retrouver Barbara, dont d'ailleurs, plus exactement, ils avaient perdu l'adresse. Ils ne savaient pas où elle est. Alors, il y a une petite phase de recherche, ils la retrouvent, enfin, Antonin la retrouve, et elle habite dans ce récit, à la pointe de la Bretagne, à la pointe du Finistère, juste en face là, à la pointe du Raz, dans une maison isolée face à l'océan. Alors, il y va, il s'y rend, bien sûr, et il va découvrir Barbara. Les autres frères et sœurs arrivent aussi, en ordre dispersé. Tout le monde va se rassembler autour de Barbara, et là, je ne vous dis pas la fin, mais Barbara va leur sortir le passé, le présent et l'avenir. Alors, ce n'est pas une cartomancienne, mais tout ce qui est non dit dans la première partie du récit, de l'intrigue, va être dévoilé pour le lecteur, bien sûr, et ça va entraîner une suite que là, je ne dévoilerai surtout pas. Voilà, c'est le grand principe.
Une suite, donc, une affaire à suivre, du coup, et une lecture à faire pour nos auditeurs. Vous nous avez un petit peu laissé sur notre fin,
oui,
là, tout de suite.
Oui. C'est comme si, dans un polar, on vous donnait le nom du coupable, vous voyez, non, je ne vous dirai pas la fin.
Ça fait déjà une dizaine de livres à votre actif, ouais. Du coup, si je situe bien. Comment vous êtes-vous mis à l'écriture?
C'est venu spontanément. Dès que j'ai pu retrouver un peu de temps libre, après une vie professionnelle à facettes multiples, et j'avais déjà, au cours de ma vie professionnelle, écrit, mais absolument pas des romans, absolument pas de la fiction, c'était des bouquins techniques qui concernaient la plongée sous-marine et la formation de plongeurs. Donc vous voyez, ça n'a absolument rien à voir, mais la démarche d'écriture était déjà un petit peu enclenchée, elle était sous-jacente. Et là, lorsque la vie professionnelle a été mise à zéro, ça m'a redonné du temps libre et ça m'a redonné l'envie et la pratique et le temps et les moyens pour écrire. Et écrire des choses que... pourquoi ce choix du roman de fiction? Ça peut aussi être une question qui se pose. Pourquoi je suis parti là-dedans? Parce que tout simplement, j'aime bien raconter des histoires. J'aime bien. Alors, pas seulement parler, mais concevoir et inventer et raconter des histoires. Un peu comme ce qui est fait ou devrait être fait aux enfants quand on leur raconte un petit truc avant de s'endormir. Moi, j'adore ça. Pas m'endormir, mais... mais ce genre de situation où on va, au cours d'un petit récit, stimuler l'imaginaire, stimuler plein de choses qui permettent de passer un bon moment. Voilà, l'objectif, c'est ça. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette voie, pourtant bien encombrée du roman.
Avant d'être un écrivain, vous êtes peut-être certainement un lecteur, comme beaucoup d'entre nous. Avez-vous des livres un petit peu cultes à nous conseiller, des lectures personnelles à conseiller à nos auditeurs ?
Moi, j'ai dans la... Toujours pour rester dans cette même conception, en fait, j'ai lu beaucoup de romans type policier, mais pas que ça, évidemment. Et là, incontestablement, les auteurs, dans ce domaine du polar ou roman psychologique ou tout ça, les nordistes, c'est-à-dire l'Europe du Nord, a un panthéon d'auteurs excessivement puissants dans ce domaine et qui sont très bien traduits. Henning Mankell, par exemple, qui est quand même assez connu, et d'autres auteurs, soit norvégiens, soit suédois, qui sont particulièrement performants et agréables à lire, et du moins qui correspondent à ce que moi j'avais envie de lire. Alors, j'ai pas de titre particulier, mais pour rester sur quelqu'un d'assez connu, de même bien connu, Henning Mankell, vous avez toute ça. Collection de romans. Alors, il y a une partie polar avec le commissaire Wallander que certains ont suivi. Et puis, il y a aussi d'autres romans beaucoup plus, psychologiques, c'est un mot qui est galvaudé aussi, mais beaucoup plus fort, en particulier depuis qu'il a vécu au Mozambique. Et il en a ressorti des impressions qui l'ont amené à concevoir des intrigues beaucoup plus profonde, si vous voulez, que le simple policier.
Donc, alors, vous êtes un petit peu, du coup, passé du... Vous avez sauté la barrière du lecteur, vous êtes devenu l'écrivain, ouais. Vous êtes devenu celui qui crée. Pourquoi écrire aujourd'hui ?
Mais ça peut correspondre à des situations personnelles qui peuvent être très, 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 très variables et très variées. Ça peut aller de l'exutoire quand on écrit sa biographie. Ça peut être un exutoire ou ça peut être au contraire quelque chose qui sert à la reconnaissance de son passé. Ça peut être un pamphlet. Enfin, dans le domaine, ça peut déborder sur le domaine du pamphlet. Alors, pamphlet, politique, religieux, dans toutes les sauces. Mais de toute façon, on peut écrire, j'allais dire, dans n'importe quelle circonstance. Ce que je recommande, parce qu'on vient souvent me poser la question quand je fais les dédicaces, comment, mais moi aussi j'ai envie, je sais pas, mais j'ose pas parce que je fais des fautes. Vous voyez, je leur dis toujours, écrivez sur un bout de papier, sur un calepin, sur un cahier, écrivez. Ça n'a ni queue ni tête, ni forme, tout ça, la forme ça viendra après, mais mettez sur le papier ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de mettre là. Et je crois que c'est un peu ça, le moteur. Il faut que ça sorte. Hein, il faut, enfin, il n'y a pas urgence vitale, mais il faut que ça... Il y a un moment où on a envie et ça devient évident qu'il faut écrire. Enfin, écrire, alors, certains prennent la parole, certains font... Vous voyez, mais il y a différents supports. Mais ça, l'écriture, c'est important.
Vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui, personnellement, vous inspire, vous pousse à écrire, vous donne toutes ces idées de romans ?
Alors, je peux vous expliquer comment je fonctionne, moi. Mais ça ne concerne que moi, évidemment. Je me contente de vivre en écoutant, en regardant et en étant attentif sans que ça devienne un tic. Alors, c'est un morceau de musique, c'est un bout de film à la télé, c'est une page de roman, c'est un article de journal, c'est excessivement divers. Et... sûrement inconsciemment, par partie, je sélectionne et je mémorise ces portions-là. Ça n'a absolument aucun rapport, absolument ni queue ni tête entre eux. Et c'est ce que j'appelle remplir le puits. Je mets tout ceci inconsciemment de côté, dans un coin. Quoi de ma mémoire, quoi tout. Éventuellement, ça peut être un cahier, mais moi, je n'utilise plus le cahier. Et au bout d'un moment, quand le puits se remplit de choses excessivement variées, excessivement diverses. Et puis il y a un moment où, clic, l'éclair vient. Alors l'éclair vient et je commence à dérouler ce qu'il y a dans le puits. Et ça commence à s'imbriquer. Alors, bien sûr, il faut que je mette beaucoup de liens autour pour que ce soit cohérent, pour que il y ait un suivi, pour que ça devienne un petit peu intéressant, j'espère. Mais c'est comme ça. À partir de données brutes, stockées n'importe quand. Alors, ça peut durer le stockage un mois, 6 mois, 1 an. Hein. C'est absolument pas préparé à l'avance. Et ça permet d'avoir une matière. Hein, et de s'inspirer de cette matière pour construire quelque chose qui commence à ressembler à un récit. Voilà, c'est comme ça que je procède. C'est pas systématique, c'est pas calibré, mais ça marche.
Vos livres se déroulent, prennent place un peu partout. On a pu le voir, vous faites un peu voyager le lecteur. Quels sont les lieux, comment vous êtes-vous inspiré de ces lieux? C'est des lieux que vous avez vous-même visités?
Non, très peu, sauf par Internet, ce qui est le moyen très commode en ce moment pour voyager. Non, par contre, parmi les lieux que je décris ou que j'amène dans les récits, il y a un dénominateur qui revient assez souvent, c'est la mer. La mer, l'océan, les grands espaces de ce type. Et ça, par contre, j'ai pratiqué un petit peu pendant 15-20 ans. Et ça m'en a laissé des souvenirs et des ressentis très puissants. Et je me sens bien en parlant de la mer et en la décrivant. Au travers des marins, au travers des bateaux, au travers de qui arrivent dans le récit de manière très, comment dire, j'espère qu'ils arrivent de manière très sensible pour le lecteur, que le lecteur adhère à cette chose-là. Et voilà, donc il y a dans Aobay, par exemple, il y a la moitié du bouquin qui relate un voyage en voilier. Quoi d'autre encore? Dans Tapis. Là, il n'y a pas de voyage en voilier, mais tout se passe en Bretagne Sud. Dans Le Banquet, tout se passe en Bretagne Sud pour la moitié du récit. Oui, donc c'est important. Pour moi, bien sûr.
Il y a une volonté peut-être de faire voyager un petit peu vos lecteurs dans vos propres souvenirs?
Peut-être un peu, oui. D'une manière non formulée, peut-être. Et en tout cas, les lieux... Alors, oublions un petit peu ce contexte marin là que je viens d'évoquer. Les lieux par ailleurs qui sont répartis du Canada au Malawi, en passant par Rio, en passant par Nouméa, en passant par Hong Kong, donc sont des lieux qui sont pour moi propices au déroulement du récit, pour servir de cadre et de décor au déroulement du récit. C'est-à-dire que le port de Hong Kong, c'est quelque chose qui constitue un décor, on va appeler ça décor si on veut, un environnement qui cadre bien avec le récit à ce moment-là. Donc je l'ai choisi comme ça, c'est parce que c'est bien, et puis ça fait c'est agréable, j'espère.
Bon. Je vous confirmerai ça après lecture. D'accord. Et justement, si on parlait de vos dernières lectures, quel livre trône sur votre table de chevet en ce moment?
Alors, dans la pile, qu'est-ce que je viens de terminer? Je viens de terminer un polar horrible, non pas horrible, mais compliqué. L'un qui s'appelle Ragdoll, qui est écrit par Daniel Cole, qui est un écrivain anglais, qui est un pavé de 500 pages, quoi, mais qu'on ne peut pas lâcher. Quand on a passé la 15e page, on ne peut plus lâcher ce récit. Donc ça me plaît parce que justement, il y a la construction de l'organisation de l'événement, enfin du récit, pardon, du fil conducteur, qui me plaît parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien faire pareil, être performant comme ça. Donc Ragdoll et puis la suite qui s'appelle L'Appât. Voilà, ça c'est les deux gros pavés. Pour le moment, mais le prochain c'est Daniel Picouli, le dernier bouquin de Daniel Picouli. Je ne suis pas branché uniquement polar. D'ailleurs, le polar, j'en écris pas. Il y a trop de monde.
Et si on en vient encore une fois à ce que vous écrivez, vous avez peut-être un livre en cours. Peut-être qu'on peut avoir quelques indications sur le contenu, le thème.
Oui.
Sans tout dévoiler, évidemment.
Non, ben, soyez en crainte, puisqu'il n'est pas fini en plus.
Oui.
Et oui, voilà, alors ce bouquin s'appelle « Tu rendras gorge », déjà rien que le titre. Et c'est le troisième de la trilogie que j'avais, que j'ai prévu d'écrire concernant l'Odève au Moyen Âge. Alors le premier s'appelle 20 000 deniers. Et c'est une histoire qui se déroule absolument à l'Odève. Vous y retrouvez les lieux, enfin évidemment les lieux du Moyen-Âge, de la ville de l'Odève, avec l'évêque de l'Odève, avec l'architecture. Et puis, à la suite de 20 000 deniers, mais sans qu'il y ait une connexion d'intrigue, il y a le diamant vert. Le diamant vert qui est aussi... qui a pour cadre, alors Soubès, le Bosque, l'Odève, etc., et qui met en scène une famille voilà, dont la mère, enfin la femme, veut absolument avoir un autre enfant. Et cette démarche qui la mine, qui devient une obsession, va la conduire à s'en mancher, le mot est galvaudé, mais à enclencher une intrigue qui va être affreuse sur la fin. Bon. Mais... Il n'y a pas que des choses affreuses. Et là, la suite, alors là maintenant, le dernier, Tu rendras gorge, c'est vraiment la suite de la même intrigue qui se poursuit sur le territoire, et même au-delà, puisqu'on passe dans celui que je suis en train d'avancer, on passe par l'Italie, on rejoint très bien le pape à Agnani, on va finir à Lyon, et peut-être que Clément V, le pape, va être sur la scène.
Et enfin, une dernière question pour vous, Paul Villevieille. Comment devient-on écrivain ?
Ben, il faut avoir envie. Et surtout, ne pas écouter et franchir toutes les barrières qu'on se fixe soi-même la plupart du temps. La barrière de la langue, la barrière de l'écriture que j'ai évoquée tout à l'heure. Moi, je fais plein de fautes, mais on s'en fiche. Ça, il y a des tas de moyens pour corriger la mise en forme. Et il faut surtout avoir envie de sortir, c'est-à-dire d'exprimer quelque chose. C'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, ça c'est pas important. Ce qui compte pour l'écrivain, c'est de pouvoir franchir cette barrière qu'il s'est souvent placée lui-même sur son chemin, franchir cette barrière et on y va. Et puis après, la suite c'est différent. Il y a des suites très positives, il y a des choses qui passent au panier, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais il faut se lancer, et ça laisse toujours de bons souvenirs, même quand ça se termine pas très bien, mais ça reste toujours des souvenirs, c'est important. Et donc moi, je considère que c'est un conseil, c'est un conseil de vie, quoi. Au lieu de se regarder en disant « Ah, j'aurais bien envie, mais j'ose pas », voilà, j'ose pas, et ben c'est, il faut franchir, et ça, je trouve ça bien.
Merci beaucoup, Paul.
Merci à vous. C'est très sympa de m'avoir invité.
C'était avec plaisir et merci à tous nos auditeurs pour leur écoute. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur les ondes de Radio Lodève.